Épître aux Colossiens. Étude de Hamilton Smith. Introduction. Dans les Épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, l'Esprit de Dieu déploie devant nous par le moyen de l'apôtre Paul les plus hautes vérités du christianisme. Les deux Épîtres donnent la prééminence aux grandes vérités de l'Église, corps de Christ, et de Christ, tête du corps. Il y a cependant la différence importante que voici. Tandis que l'Épître aux Éphésiens met en avant les privilèges du corps, l'Épître aux Colossiens met l'accent sur les gloires de la tête. Tandis que dans l'Épître aux Éphésiens, l'Église est vue comme représentée en Christ dans le ciel, dans l'Épître aux Colossiens, Christ est vu comme représenté dans l'Église sur la terre. Il semblerait que l'Épître a été écrite avec un double objectif. D'abord, déployer la plénitude qui réside en Christ, la tête de l'Église, de sorte que les croyants réalisant la plénitude de leurs ressources en Christ peuvent échapper au piège de recourir aux expédients de la chair religieuse pour sustenter la vie chrétienne. Deuxièmement, exposer le propos de Dieu qui est de manifester Christ dans l'Église, non seulement dans la gloire future, mais déjà dans son passage ici-bas à travers le temps. En Colossiens 1, après l'introduction des versets 1 à 14, il est présenté, premièrement, les gloires de la personne de Christ, versets 15 à 19, deuxièmement, les gloires de l'œuvre de Christ, versets 20 à 23, troisièmement, la gloire du mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire, versets 24 à 29. Ensuite, en Colossiens 2, versets 1 à 19, nous sommes mis en garde contre les différents expédients par lesquels le diable cherche à contrecarrer le propos actuel de Dieu, qui est de manifester le caractère de Christ comme tête dans le ciel, dans les membres de son corps sur la terre. En Colossiens 2, versets 20 à 3, verset 11, l'apôtre présente la pratique qui doit découler de ce que les croyants sont morts et ressuscités avec Christ. Puis, en Colossiens 3, verset 12, à 4 verset 6, nous sommes exhortés à exprimer la vie de Christ moralement, dans le cercle chrétien, chapitre 3 verset 12 à 17, dans le cercle de la famille, verset 18 à 21, dans le cercle social, verset 22 à chapitre 4 verset 1, et envers ceux du dehors, chapitre 4 verset 2 à 6. Enfin, les salutations d'usage terminent l'épître, chapitre 4 verset 7 à 18. Au chapitre 1, versets 1 à 14, nous avons la partie introductive de l'Épître. Les versets d'introduction de l'Épître commencent par la salutation de l'apôtre, versets 1 et 2, suivent ses actions de grâce pour les fruits de la grâce vus dans les seins de Colosse, versets 3 à 8, et finalement la prière en leur faveur, versets 9 à 14. La salutation de l'apôtre, versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. L'Épître commence par une belle salutation dans laquelle Paul parle de lui-même comme apôtre envoyé avec toute l'autorité de Jésus-Christ. Tout ce qui est dit dans l'Épître peut donc être lu comme un message de Jésus-Christ et en accord avec la volonté de Dieu, comme très souvent dans les Épîtres de Paul, Timothée est associé à l'apôtre. Les croyants de Colosse sont vus comme étant en Christ et l'apôtre s'adresse à eux en tant que saints, ce qui implique leur séparation d'avec le monde, en tant que fidèles, c'est-à-dire qu'ils sont vrais vis-à-vis de Dieu et de la position dans laquelle Dieu les a placés, et en tant que frères, formant entre eux un cercle de communion fraternelle sur la terre. Comme tel, l'apôtre désire pour eux que leur soit accordée la grâce et la paix dont les saints ont constamment besoin et qui sont toujours disponibles de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'action de grâce, versets 3 à 8. Versets 3 et 4. Citation de l'Écriture. Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous, ayant ouï parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Fin de citation. Après la salutation, nous avons l'action de grâce qui s'élevait constamment du cœur de l'apôtre quand il priait pour ses croyants. L'apôtre parle d'abord de leur qualité chrétienne qui faisait naître ces actions de grâce. Ils étaient marqués par la foi dans le Christ Jésus et par l'amour pour tous les saints. Ils avaient non seulement été tirés vers le Seigneur Jésus par la foi en tant que pécheurs nécessiteux, mais ils marchaient aussi par la foi comme des saints dépendants. La réalité de leur foi en Christ était démontrée par leur amour pour les saints. Leur amour n'était pas un amour de type humain qui les aurait simplement attachés à certains individus. C'était un amour divin qui s'épanchait vers tous les saints en tant que tels. Versets 5 à 8. Citation de l'Écriture. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà ouï parler dans la parole de la vérité de l'Évangile, qui est parvenue jusqu'à vous, comme aussi il l'est dans tout le monde, et qui porte du fruit et croît, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, comme vous l'avez entendu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous, qui nous a aussi fait connaître votre amour dans l'esprit. Fin de citation. Après avoir présenté la raison qui lui permet de rendre grâce, l'apôtre déclare ce pourquoi il rend grâce. Il rend grâce à Dieu pour la perspective glorieuse qui est devant les croyants, l'espérance réservée pour eux dans les cieux. Il ne pense pas à ce dont ils étaient délivrés ni à la scène qu'ils traversaient. Il ne propose aucune espérance brillante dans ce monde, mais il voit dans les saints de Colosse une compagnie de gens rattachés au ciel. L'épître indique qu'en ce moment même, ils étaient en danger d'avoir leurs pensées détournées des choses d'en haut par les choses qui sont sur la terre. Chapitre 3, verset 2. Néanmoins, le danger de se détourner n'altérait en aucune manière le fait que Dieu ait réservé une perspective bénie pour les siens dans le ciel, et c'est là le sujet d'action de grâce de l'apôtre. Note du traducteur. L'auteur rattache bien le verset 5 « à cause de l'espérance » au verset 3, mais il fait ce rattachement à « nous rendons grâce » de ce verset 3. Nous pensons plutôt qu'il faut faire le rattachement de « à cause de l'espérance » à « priant toujours pour vous ». Autrement dit, l'apôtre priait « à cause de l'espérance » parce que les Colossiens étaient en danger de la perdre de vue. Ce que l'auteur indique justement dans le paragraphe suivant et plus loin dans cette étude. Gardez constamment cette espérance bénie devant nos âmes est certainement de la plus haute importance. Nous nous réjouissons à juste titre de savoir que nous avons été délivrés du jugement. Mais s'il n'y a que cela, nous risquons de retourner aux choses de la terre dès que la première joie du soulagement diminue. C'est ainsi que les fils d'Israël ont chanté de joie quand ils ont été délivrés du Pharaon, et pourtant, ils sont bien trop tôt retournés de cœur en Égypte. Caleb et Josué, qui ne sont pas ainsi retournés, avaient devant leurs yeux le pays de Canaan. De même pour nous les chrétiens, ce n'est que dans la mesure où nos cœurs entrent dans la bénédiction de l'espérance réservée pour nous par Dieu dans le ciel que nous échappons au piège tendu par le diable sous nos pieds sur la terre. Ce n'est que si nous marchons à la lumière du ciel que nous serons élevés au-dessus du présent siècle mauvais et que nous serons soutenus dans notre traversée du désert. Ainsi, ces premiers versets dressent le beau tableau d'une compagnie de saints objet de la faveur présente du Père et de ses provisions de grâce sans faille, verset 2, de saints marqués par la foi et l'amour qui accompagnent le salut, verset 4, et qui ont une espérance glorieuse réservée pour eux dans le ciel, verset 5. L'apôtre rappelle ensuite à ses saints les moyens par lesquels ils avaient entendu parler de cette espérance bénie. Cela l'amène à parler de l'Évangile, car, comme quelqu'un a dit, la bonne nouvelle de la grâce contient en elle la bonne nouvelle de la gloire. Nous apprenons ainsi dans l'épître de Paul à Tite que l'apparition de la grâce de Dieu conduit à l'apparition de la gloire. Tite 2, versets 11 à 13. L'apôtre parle de l'Évangile comme de la parole de vérité. Verset 5, en contraste avec les discours spécieux par lesquels ils étaient en danger d'être séduits. Chapitre 2, verset 4. Il y avait en ce temps-là, comme aujourd'hui, des gens qui cherchaient à ramener les saints au terrain juif. C'est pourquoi l'apôtre leur rappelle l'universalité de l'Évangile. La grâce de Dieu ne peut pas être confinée aux Juifs, elle est pour tout le monde. En outre, dans ce temps-là, l'Évangile portait du fruit et croissait. Plus loin, nous apprendrons que les saints doivent porter du fruit et croître, au verset 10. Ici, c'est l'Évangile qui porte du fruit et croît. Les saints eux-mêmes sont le fruit de l'Évangile. Le caractère de Christ dans les saints est le fruit qui doit être porté par les croyants. L'Évangile de la grâce de Dieu avait atteint les Colossiens par Épaphras, le bien-aimé compagnon de service de Paul et Timothée, et un fidèle serviteur du Christ pour les saints de Colosse. Il avait rapporté à l'apôtre qu'une authentique œuvre de Dieu avait été opérée au milieu d'eux, manifestée par leur amour dans l'Esprit. Il est significatif que ce soit la seule référence à l'Esprit dans l'Épître. Comme ces saints étaient en danger d'être détournés de Christ comme leur seul objet, le propos spécial de l'Esprit dans l'Épître est d'exalter Christ devant eux. C'est probablement la raison pour laquelle l'apôtre est conduit à tenir Christ devant ses saints et à peu parler de l'Esprit, qui est celui qui prend de ce qui est à Christ et nous le communique. Jean 16, verset 14. Versets 9 à 14. La prière. L'apôtre a remercié Dieu pour l'espérance réservée aux croyants dans les cieux. La certitude de la fin du voyage n'est pas un sujet de prière, mais plutôt de louange. Nous sommes toutefois encore dans le monde, bien que n'en étant pas, et il y a un chemin à parcourir en route pour le ciel. Ce chemin, en raison de ses difficultés et de ses dangers, suscite la prière de l'apôtre. Versets 9 et 10. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Fin de citation. Il priait sans cesse pour que ses croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans de nombreux passages, la volonté de Dieu fait référence aux conseils éternels de Dieu, comme quand nous lisons par exemple « Celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté » Éphésiens 1, verset 11. Dans d'autres passages, cette volonté fait référence à la volonté de Dieu pour les siens dans leur chemin quotidien. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Pierre 2, verset 15, etc. C'est le cas dans ce verset 9 où la volonté de Dieu se réfère à l'évidence à notre marche pratique. Le discernement de la volonté de Dieu pour notre chemin, tout en requérant une connaissance des pensées de Dieu révélées dans la parole, dépend de l'état spirituel de l'âme, ce qui est sous-entendu dans les mots « en toute sagesse et intelligence spirituelle ». L'apôtre ne laisse pas entendre que la connaissance de sa volonté peut être acquise par une connaissance intellectuelle des commandements formels de Dieu comme sous la loi. Encore moins peut-on l'acquérir par les conseils d'autrui, même si les conseils fraternels ne sont pas à mépriser. La sagesse et l'intelligence spirituelle signifient plutôt, comme quelqu'un l'a dit, la perception de ce qui est bon et sage aux yeux de Dieu sans être son commandement exprès. La sagesse est la connaissance intime de la vérité en contraste avec le manque de sagesse ou d'intelligence. Voir Romains 1, verset 14. Je suis débiteur et envers les Grecs et envers les barbares et envers les sages et envers les inintelligents. L'intelligence ou compréhension spirituelle est plutôt le discernement ou la clairvoyance spirituelle qui fait une application juste de la vérité aux circonstances particulières. Dans le chemin de la volonté de Dieu, la sagesse et l'intelligence simplement humaine ne servent à rien. C'est un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas et que l'œil du vautour n'a pas aperçu, la bête fauve ne l'a pas foulé, le lion ne l'a pas traversé. Job 28, versets 7 et 8. Dans la nature, il n'y a pas d'œil aussi perçant que celui du vautour, ni d'animal aussi audacieux que le lion. Mais la hardiesse et la longue-vue naturelle ne sont pas de taille à soutenir le chemin de la foi. Seul l'œil simple, qui a Christ pour seul objet, donne de l'intelligence spirituelle. Les saints de Colosse connaissaient la grâce de Dieu qui leur avait procuré un avenir béni dans le ciel. Mais, comme ils étaient en danger d'être détournés par les discours spécieux des hommes, par la philosophie et les vaines déceptions, il semble qu'il leur manquait la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Au verset 10, nous apprenons maintenant que cette sagesse divine a en vue un triple but. Premièrement, que nous marchions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. Deuxièmement, que nous portions du fruit. Troisièmement, que nous croissions spirituellement dans la connaissance de Dieu, ou par la connaissance de Dieu. Il est à noter que dans ce passage, la plénitude de sagesse et d'intelligence spirituelle n'ont pas pour but de pouvoir faire de grandes choses pour le Seigneur ou de pouvoir enseigner et prêcher la vérité à son sujet, mais qu'au-delà de toute autre considération, nous marchions d'une manière digne du Seigneur. Notre état spirituel et notre marche pratique dans la vie de tous les jours sont de loin bien plus importants que tout notre service et nos activités. C'est donc pour cela que l'apôtre priait. En outre, l'apôtre ne priait pas pour que nous marchions simplement en évitant le mal, ce qu'un homme naturel pourrait faire, mais pour que notre marche soit digne du Seigneur. Le Seigneur est la norme de notre marche. Nous ne devons pas simplement avoir en vue une marche digne de notre réputation ou de notre position ou de notre famille ou de notre maison ou même des saints, mais une marche digne du Seigneur. Et la marche ne doit pas seulement être digne du Seigneur, mais il faut lui plaire à tous égards. Il ne suffit pas d'avoir une marche qui plaise et soit agréable à nous et à nos frères, mais il faut qu'elle plaise au Seigneur. Il est écrit du Seigneur, « Le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même. » Romains 15, verset 3. Par contre, il pouvait dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent » en parlant du Père, en Jean 8, verset 29. Il y a souvent bien des choses que nous disons et faisons qui ne seraient jamais dites ou faites si nous nous arrêtions pour nous demander « Est-ce digne du Seigneur ? » Et « Est-ce que cela plaît au Seigneur ?» Il est bien de commencer chaque journée par la prière que nous marchions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. L'apôtre désire ensuite que nous portions du fruit en toute bonne œuvre. Le fruit dans le croyant est toujours l'expression du caractère de Christ. L'homme du monde peut faire beaucoup de bonnes œuvres, mais il ne peut pas porter du fruit pour Dieu dans ses bonnes œuvres. Seul le croyant peut exprimer quelque chose de Christ dans ses bonnes œuvres, de sorte qu'il y ait du fruit pour Dieu dans celle dont l'homme profite. Enfin, l'apôtre désire que nous croissions par la connaissance de Dieu. Le chemin qui est digne du Seigneur et dans lequel il y a du fruit pour Dieu sera sûrement un chemin qui conduit à la croissance spirituelle au moyen d'une connaissance accrue de Dieu. Ce sera sûrement une connaissance de Dieu acquise par l'expérience plutôt que par la doctrine, même que cette connaissance soit certainement en accord avec la vérité. Il devient évident à partir de ce passage, ou d'autres de l'Écriture, que les croyants ne sont pas laissés dans ce monde pour trouver leur chemin vers le ciel du mieux qu'ils peuvent, ou pour marcher selon leur idée de ce qui plaît à Dieu. La voie tracée par Dieu pour les siens est celle où sa volonté passe en premier et non la leur. De toute évidence, ce verset 10 montre que sa volonté est que les siens marchent d'une manière digne du Seigneur, portant du fruit, c'est-à-dire manifestant les caractères de Christ et croissant par la connaissance de Dieu. Une marche ne peut être digne du Seigneur que si nous suivons ses traces. Nous lisons de lui qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. En présence de torts et de paroles dures, méchantes et malveillantes prononcées contre nous, notre préoccupation ne devrait pas être de nous défendre et de maintenir nos droits, mais de manifester Christ, et à l'égard des torts, de nous remettre à celui qui juge justement. Si les intérêts de Christ sont notre préoccupation principale, nous pouvons compter sur Dieu pour qu'il s'intéresse à nos préoccupations. En manifestant ainsi Christ, nous porterons du fruit et nous croîtrons dans la vraie connaissance de Dieu, ou par la vraie connaissance de Dieu. Quelqu'un a dit « Nous ornons la doctrine de notre Dieu Sauveur en manifestant dans ce monde de péché et dans les circonstances difficiles de la vie quotidienne, non pas ce qu'est la chair, mais ce qu'est Christ. Nos cœurs se nourrissent de son amour tandis que nous nous appuyons sur son bras et que nous sommes guidés par son œil. Nous fera-t-il défaut à l'heure du besoin ? Il nous met dans le besoin juste pour que nous éprouvions combien ses ressources sont abondantes pour faire de nous des vainqueurs de la puissance de l'ennemi. » Pensée de Gien Darby. Verset 11. Citation de l'Écriture. « Étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. » Fin de citation. Nous avons déjà vu qu'il y a besoin de sagesse divine et d'intelligence spirituelle pour prendre un chemin digne du Seigneur, où l'on porte du fruit et où l'on croit dans la connaissance de Dieu. Nous apprenons, en outre maintenant, la vérité que ce chemin nécessite de la puissance divine. Un tel chemin dépasse tout à fait la force naturelle. C'est pourquoi l'apôtre prie pour que nous soyons fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire. Plus une personne est exaltée dans sa position, plus sa puissance est grande. Qui peut donc estimer la puissance de la gloire de Christ qui est assis à la droite de la puissance ? Matthieu 26, verset 64. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est parlé de l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Elle a été vue en plaçant Christ à la droite de Dieu, au-dessus de toute puissance qui nous est contraire, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. Éphésiens 1, verset 19 à 21. Si Christ dans son chemin est notre modèle, Christ vivant dans la gloire est notre force. Cette puissante force est à notre disposition, mais ici ce n'est pas pour faire de nous de grands prédicateurs ou docteurs ou des conducteurs de premier plan parmi le peuple de Dieu. Ici, cette puissance est là pour nous rendre capables non seulement de prendre le chemin qui est agréable au Seigneur, mais aussi d'endurer avec patience et joie les circonstances du chemin. Nous le considérons dans son chemin parfait comme notre modèle, et nous nous tournons vers lui dans la gloire pour avoir la puissance pour marcher selon le modèle. Ainsi, dans une autre épître, l'apôtre peut dire « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » 2 Corinthiens 3, verset 18. L'apôtre ne demande pas de la force pour faire de grandes actions ou quelques grands sacrifices dans une occasion particulière. Il demande de la force afin d'être dans un état digne du Seigneur dans la tranquillité de la vie quotidienne. Nous savons très bien que c'est le quotidien qui est le véritable test de la vie chrétienne. C'est là que nous avons besoin de toute patience et constance, ou longanimité, combinée avec la joie. Un homme inconverti peut parfois faire preuve de constance ou longanimité, mais qui peut combiner la constance avec la joie si ce n'est le chrétien? Ces termes décrivent ce que nous sommes plutôt que ce que nous faisons. La patience a trait plutôt aux circonstances, la constance ou longanimité plutôt à nos frères et la joie plutôt à Dieu. Tel est le chemin que l'apôtre désire pour les croyants. Un chemin qui a été tracé par Christ pour nous, car nous lisons « Celui qui dit demeurer en lui doit aussi marcher comme lui a marché. » 1 Jean 2, verset 6. Dans son chemin à travers ce monde, tout était contre lui. À chaque étape, il a dû rencontrer la contradiction des pécheurs, l'opposition du monde religieux, la faiblesse et l'ignorance des siens. Pourtant, en présence de toutes sortes d'épreuves, il n'a jamais rien fait pour lui-même, mais il a fait seulement la volonté du Père, montrant une bonté parfaite et toute patience avec longanimité. Considérant son chemin, nous voyons ce qu'on ne trouvera pas au ciel. Un chemin de perfection au milieu du mal. Voilà le modèle parfait pour le chemin du croyant. Marcher en quelque mesure dans le chemin qui a Christ pour modèle demande un œil simple qui a Christ pour objet. Versets 12 à 14. Citation de l'Écriture. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Fin de citation. L'apôtre passe alors au secret de la joie quand les circonstances demandent de la patience et de la constance. Ce secret réside dans la connaissance de ce que le Père a fait pour nous. Tout d'abord, le Père nous a rendus capables, ou dignes, de participer au lot des saints dans la lumière. Il y a non seulement une part mise en réserve pour nous dans le ciel, mais nous sommes rendus propres à avoir cette part. Nous ne sommes pas seulement rendus propres à participer aux privilèges des saints ici-bas, mais aussi à participer à leur lot dans la lumière. L'efficacité de l'œuvre de Dieu par Christ est si absolue qu'elle rend les siens dignes de se tenir dans la lumière où Dieu habite dans la pleine lumière de sa sainteté sans tache. Le Père nous a pris quand nous étions dans tous nos péchés et notre abjection et nous a rendus dignes pour la lumière. La propre justice peut dire « Je ne suis pas digne ». Mais la foi qui regarde à Christ ressuscité peut dire « J'ai été rendu tel qu'il est » et suis donc rendu capable de participer au lot des saints dans la lumière. Il peut y avoir des exercices profonds quand on l'apprend. Des questions sans fin et qui tourmentent peuvent se poser si le cœur se tourne vers lui-même. Mais toutes ces questions seront réglées quand l'âme ne regarde qu'à Christ ressuscité. Christ est ressuscité, et il n'est pas possible de mettre en cause Christ ressuscité. Il est au-delà des péchés, au-delà du jugement, au-delà de la mort, et au-delà de la puissance de Satan qu'il a brisé sur la croix. Ce qui est vrai de Christ est vrai du croyant, pour lequel Christ est mort. Celui qui est effectivement ressuscité ne peut être suspecté d'indignité vis-à-vis de la lumière. Or Dieu nous dit que Christ qui est mort pour nous est réellement ressuscité, et que ce qui est vrai de lui est vrai du croyant devant Dieu. Christ est-il digne d'être dans la lumière ? Nous aussi. Le brigand a été rendu propre pour être avec Christ le jour même où il a été converti. Paul, à la fin de sa vie de dévouement, n'était pas plus propre pour le ciel que le brigand entré au paradis le jour même de sa conversion, même si lui, Paul, était beaucoup plus propre pour vivre pour Christ dans ce monde mauvais. Deuxièmement, non seulement nous sommes rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, mais le Père nous a aussi délivrés du pouvoir des ténèbres. Satan et ses émissaires sont les dominateurs des ténèbres de ce monde. Aveuglé par Satan, le monde, en dépit de toute sa civilisation, ses découvertes et ses inventions, est dans les ténèbres ou l'ignorance de Dieu. Le chrétien a été délivré du pouvoir des ténèbres et placé sous un autre pouvoir, le pouvoir de celui qui a la grande et glorieuse position et relation avec Dieu comme le Fils de son amour. Plus tard, Christ sera manifesté comme le Fils de l'homme sur la terre dans son royaume. Mais cette personne glorieuse, sous la domination duquel nous sommes amenés, est celui dont le Père peut dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». En venant sous la domination du Fils de son amour, nous venons à celui qui, non seulement peut nous mettre à l'abri de tous les dangers et répondre à tous nos besoins, mais qui peut aussi satisfaire le cœur de son amour indéfectible. Non seulement nous sommes rendus propres pour la lumière de Dieu, mais nous sommes aussi sous la domination de l'amour du Père révélé dans le Fils. Troisièmement, il nous est rappelé la base juste sur laquelle nous avons été rendus propres pour la lumière et transportés dans le royaume de l'amour. Par l'œuvre de Christ sur la croix, tout ce qui s'interposait entre nous et la bénédiction a été dissipé, de sorte que nous pouvons dire « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ». Dans ces versets 12 à 14, l'apôtre ne rend plus grâce pour les qualités trouvées chez les saints de Colosse, comme au verset 4 et 5, mais il exprime plutôt la reconnaissance au Père pour les bénédictions qui sont la part commune de tous les croyants. Ainsi, il dit « nous a rendus capables, nous a délivrés, nous a transportés, et encore, nous avons la rédemption ». Nous avons eu la prière de l'apôtre au Père pour notre marche et notre croissance spirituelle. Ici, il rend grâce pour les bénédictions dans lesquelles nous sommes placés par grâce. Ces bénédictions ne sont pas un sujet de prière, mais un sujet de louange, et elle présente la position et les relations dans lesquelles le croyant est placé par la grâce du Père, par l'œuvre de Christ. La position et les relations étant le résultat de l'œuvre de Christ, elles sont aussi parfaites que cette œuvre. Nous pouvons croître dans l'appréciation de ces bénédictions, mais pas dans les bénédictions elles-mêmes. Saisir cela est de la plus haute importance, car toute marche chrétienne correcte, tout service, tout témoignage vis-à-vis du monde, découle de la vraie connaissance des relations établies entre nous et Dieu. Si cela n'est pas fermement maintenu, l'âme sérieuse cherchera à bien marcher pour sécuriser la relation, tombant ainsi dans le légalisme. L'œuvre de Christ assure la bénédiction, quoique la jouissance de la bénédiction dépende largement de notre marche. Versets 15 à 29. Christ, l'œuvre de Christ et le mystère. Les saints de Colosse étaient en danger d'être détournés de Christ par la philosophie et les vaines déceptions, perdant ainsi conscience de la plénitude de leurs ressources en Christ la tête, aussi bien que de la vraie relation de l'assemblée avec Christ comme son corps. Pour faire face à ces pièges, l'Esprit de Dieu, dans cette portion de l'Épître, cherche à attirer nos cœurs à Christ en dévoilant les gloires de sa personne, la grandeur de son œuvre et la gloire du mystère. Versets 15 à 19. Les gloires de la personne de Christ. Citation de l'Écriture. Qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place, car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter. Fin de citation. L'apôtre a déjà placé devant nous le Fils en relation avec le Père, comme celui sous la domination duquel les croyants ont été amenés. Maintenant, il place devant nous les gloires du Fils en relation avec Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Dans sa déité essentielle, Dieu est invisible. Mais dans son être moral, Dieu a été parfaitement donné à connaître dans le Fils devenu chair. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Personne, hormis une personne divine, n'est compétent pour révéler pleinement une personne divine. Le cœur du Père ne pouvait être révélé avant que le Fils vienne dans le monde. L'Écriture parle d'image et de ressemblance. La différence est que dans la ressemblance, on est comme un autre, avec les mêmes traits, les mêmes caractères. Mais l'image donne l'idée de représenter un autre, qu'il y ait ressemblance ou non. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Adam était comme Dieu, en ce qu'il a été fait sans péché. Il était également à l'image de Dieu, en ce qu'il représentait Dieu comme étant le centre d'un système sur lequel il devait avoir la domination. Il est encore dit de l'homme qu'il est à l'image de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. Même s'il est très dissemblable de Dieu depuis qu'il est déchu. Le Fils n'est jamais dit être à la ressemblance du Dieu invisible, car il est Dieu. Et dire qu'il est comme Dieu pourrait laisser entendre qu'il n'est pas vraiment Dieu. Néanmoins, le Fils est l'image du Dieu invisible, celui qui dans sa propre personne représente parfaitement Dieu dans ses caractères et ses attributs moraux devant tout l'univers. Deuxièmement, il est fait passer devant nous les gloires du Fils en rapport avec l'ensemble de l'univers créé. Venu dans la création, le Fils est le premier-né de toute la création. Le mot « premier-né » est souvent utilisé dans l'Écriture, comme parmi nous, pour signifier une priorité dans le temps, celui qui vient en premier. L'Écriture utilise aussi ce mot pour signifier la prééminence et la dignité. Dieu parle d'Éphraïm comme « mon premier-né », bien qu'historiquement, Manassé soit le fils premier-né de Joseph. Jérémie 31, verset 9. Il est aussi dit de David, « Je ferai de lui mon premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Psaume 89, verset 27. Ici, le mot est utilisé pour exprimer la prééminence de David sur les rois de la terre et donc en faire une figure de Christ. Si le Fils est venu dans la création, il doit nécessairement avoir la prééminence en position et en dignité au-dessus de toute créature. C'est dans ce sens qu'il est appelé le premier-né de toute la création. En outre, il nous est dit pourquoi le Fils a pris ainsi la place suprême de premier-né. Car par lui ont été créées toutes choses, soit dans le ciel, soit sur la terre, les visibles comme celles au-delà des limites de notre vision, les puissances matérielles comme les puissances spirituelles. De plus, non seulement toutes choses ont été créées par lui, mais elles ont également été créées pour lui, comme pour le Père également. Nous sommes ensuite mis en garde contre les pensées incrédules des hommes qui professent croire en sa prééminence sur la création et qui pourtant disent que lui-même a eu un commencement. Car il nous est expressément dit « Lui est avant toute chose ». Cette déclaration nous parle en termes non équivoques de la gloire divine et éternelle du Fils. Nous sommes ramenés à une époque où il n'y avait rien de créé de ce qui a ensuite été créé, pour apprendre non seulement qu'il était, mais qu'il est. Ce sont des mots qui, tout en interdisant l'idée qu'il a commencé ou qu'il a été fait, nous parlent clairement de son existence éternelle comme le Fils. Enfin, en rapport avec la création, il nous est dit « Toute chose subsiste par lui ». Non seulement les choses créées subsistent, mais elles subsistent ensemble. La grande création est soutenue par le Fils dans toutes ses différentes parties comme un tout harmonieux. Les hommes voudraient utiliser ce qu'ils appellent les lois de la nature pour rejeter le Créateur hors de son univers. Mais tout tomberait en ruine sans la puissance de soutien du Fils. Sans doute, il y a des lois par lesquelles Dieu maintient l'univers, car Dieu est un Dieu d'ordre, et parmi toutes leurs spéculations changeantes, les hommes peuvent avoir partiellement découvert certaines de ces lois. Mais on peut demander, si la gravité est l'une de ces lois par lesquelles la Terre est maintenue dans son orbite autour du Soleil, qui est-ce qui a fait persister la gravité? L'Écriture répond, toute chose subsiste par lui. Venant ainsi dans la création, le Fils prend la place de suprématie comme le premier-né, car toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Troisièmement, les gloires du Fils en rapport avec l'Assemblée sont mises devant nous. Il est la tête du corps de l'Assemblée. Ici, nous sommes emportés en pensée au-delà de la terre et au-delà de la mort. Pour être la tête de l'Église, il ne suffisait pas que le Fils entre dans la création et prenne sa place de prééminence dans le monde que ses mains avaient fait. Il devait aller plus loin, dans la mort même, et devenir prééminent en résurrection pour devenir ainsi le commencement d'une nouvelle création au-delà du pouvoir de la mort. Dans cette nouvelle scène, il s'est associé son assemblée. Il y a, comme nous l'avons vu, la prééminence qui lui appartient dans la création, en raison de ce qu'il est. Il y a aussi la prééminence qu'il a acquise en vertu de l'œuvre qu'il a accomplie. Il a ainsi la prééminence en toute chose, car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter. De manière très bénie, il a révélé le Père, mais il a fait plus. Il a révélé la déité, Père, Fils et Saint-Esprit, car en lui la plénitude a habité. Versets 20 à 23. Les gloires de l'œuvre de Christ. Verset 20. Citation de l'Écriture. Et par lui a réconcilié toute chose avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Fin de citation. Après avoir placé devant nous les gloires de la personne du Fils, l'apôtre aborde les gloires de son œuvre. De même que la gloire de sa personne est présentée en premier lieu en rapport avec la création, puis en rapport avec l'Assemblée, De même, la gloire de son œuvre a aussi ce double aspect. En premier lieu, son œuvre est considérée en rapport avec la création, verset 20, puis en rapport avec ceux qui forment l'assemblée, versets 21 et 22. Toute la création a été touchée par la chute. Le péché a souillé l'univers entier, et une création souillée est nécessairement inconvenante pour Dieu. Nous lisons ainsi dans un autre passage « La création tout entière soupire et est en travail jusqu'à ce jour. » Romains 8, verset 22. C'est le bon plaisir de Dieu de réconcilier toute chose avec la déité, de sorte que tout en étant en accord avec sa pensée, il regardera enfin le vaste univers avec satisfaction et délice. Pour supprimer la douleur et la discorde de la création, il ne suffisait pas que le Fils s'incarne, devienne un homme. Il fallait qu'il entre dans la mort. Une création ruinée ne pouvait être réconciliée avec Dieu que par le sang de sa croix. Le sang a été versé et mis sur le propitiatoire. La paix a donc été faite devant Dieu. Comment Dieu aurait-il pu autrement s'occuper avec justice d'une création souillée depuis la chute? Il nous faudra encore attendre pour voir les pleins résultats de son œuvre appliquée à la création. Versets 21 à 23. Citation de l'Écriture. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui, si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. » Fin de citation. Cependant, à part des choses créées, il y a ceux qui forment l'assemblée. Les choses créées rendent témoignage à ce que le péché souille. De même, les personnes sont devenues étrangères dans leurs pensées par leurs mauvaises œuvres. En contraste avec les choses créées, nous apprenons que les croyants sont déjà réconciliés. L'œuvre de Christ n'a pas seulement ôté nos péchés, mais elle nous a aussi placés dans une condition devant Dieu dans laquelle il peut nous regarder avec satisfaction comme saints et irréprochables et irrépréhensibles. Voilà comment nous sommes vus par la déité comme étant en Christ. Hélas, dans la pratique, nous sommes trop souvent loin d'être irréprochables et irrépréhensibles. La vérité de la réconciliation suppose que nous sommes de vrais croyants. C'est une réalité prouvée par la persévérance dans la foi. L'apôtre parle non pas de la foi de l'individu, mais de la foi commune, la vérité que l'on croit. Si un homme qui a professé la vérité abandonne la foi commune, nous ne pouvons absolument pas nous prononcer sur la foi individuelle de son âme. Nous pouvons cependant juger de la foi qu'il reconnaît, si c'est la vérité ou non. Quelqu'un a dit « Une personne peut être sincère dans ce qui est mal ou de mauvaise foi dans ce qui est juste, mais la vérité est une norme inflexible. Si l'on devait juger sur la base du cœur d'une personne, on ne pourrait jamais rien dire, car qui peut se prononcer là-dessus, hormis Dieu? Si l'on agit sur la base de la foi, du moment qu'un homme va à l'encontre de la vérité, abandonnant ce qu'il professait, nous sommes tenus de juger cela en laissant la question de la foi de son cœur dans les mains de Dieu. Du fait que les Colossiens étaient en danger de s'écarter de la vérité, un avertissement est donné pour qu'ils persévèrent. S'ils abandonnaient la vérité, personne ne serait en droit de les considérer comme faisant partie de ceux qui sont réconciliés. D'où l'avertissement de ne pas se détourner de l'espérance de l'Évangile. L'espérance de l'Évangile est dans les cieux, en contraste avec les espérances d'Israël qui sont sur la terre. Il y avait ceux qui tentaient de séduire ces saints pour leur faire abandonner leur espérance céleste par l'adoption de l'ascétisme, des fêtes et des ordonnances, toute chose qui les rattachait à la terre. Un tel enseignement n'était pas en accord avec l'Évangile qu'ils avaient entendu et dont Paul était devenu serviteur. Versets 24 à 29. La gloire du mystère. Après avoir présenté la gloire de la personne de Christ, et la gloire de son œuvre, l'apôtre complète maintenant la vérité en présentant la gloire du mystère. La gloire et la prééminence de la personne de Christ ont d'abord été présentées en rapport avec la création, puis en rapport avec l'assemblée. La gloire de son œuvre a également été présentée en rapport avec ces deux sphères, la création et l'assemblée. Maintenant, l'apôtre présente le ministère de la vérité dans ce double aspect, d'abord le ministère de l'Évangile à toute la création qui est sous le ciel, verset 23, et d'autre part, le ministère ou administration du mystère pour tous les saints, versets 25 et 26. Versets 24 et 25. Citation de l'Écriture. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions du Christ pour son corps qui est l'assemblée, de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu. Fin de citation. Le ministère de la vérité du mystère avait conduit l'apôtre en prison. Et en rapport avec cette grande vérité, il accomplissait ce qui restait des souffrances de Christ et complétait la parole de Dieu. La vérité de l'assemblée, plus que toute autre vérité, a exposé l'apôtre aux persécutions et aux souffrances, surtout de la part des Juifs. Juifs et païens avaient en horreur la vérité qui met de côté la religion des Juifs et la philosophie des païens en annonçant la grâce à tous sans avoir aucun respect pour la chair ni des uns ni des autres. Cette haine s'est exprimée par la persécution et par la prison. Dans son grand amour, Christ avait en effet souffert sur la croix pour l'Église. L'apôtre, dans son amour pour l'Assemblée, avait souffert pour proclamer la vérité du mystère. Aussi grande et parfaite que soient les souffrances expiatoires de Christ, proclamer publiquement la vérité du mystère ne faisait pas partie de son service d'amour. Il fallait pour cela attendre sa nouvelle place dans la gloire et la venue de l'Esprit. Alors, l'apôtre a pris en charge ce service d'amour avec les souffrances qu'il entraîne et a ainsi accompli ce qui restait à souffrir des souffrances du Christ. En outre, la vérité du mystère complète le grand cercle des sujets contenus dans la parole de Dieu. Cela exclut totalement d'autres sujets que les hommes peuvent chercher à présenter comme étant la vérité ou le développement de la vérité. Quelqu'un a dit « Le cercle des vérités que Dieu avait à traiter afin de nous révéler la gloire de Christ et de nous donner une instruction complète selon sa sagesse est complet une fois que la doctrine de l'Assemblée est révélée. » Pensée de Jean Darby. Versets 26 et 27. Citation de l'Écriture. Savoir le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints, auxquels Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Fin de citation. Cette grande vérité, l'assemblée composée de croyants pris d'entre les Juifs et les gentils et formés en un seul corps, unis à Christ comme homme glorifié pour former une compagnie céleste, cette vérité avait été cachée dès les siècles et dès les générations. Elle était inconnue tout au long des dispensations passées et elle n'avait pas été révélée aux générations du peuple de Dieu ni même aux armées angéliques. Si Dieu avait affaire avec les Juifs et avec les gentils en tant que tels, comment pouvait-il être révélé une vérité qui met de côté les uns et les autres pour former une compagnie nouvelle et céleste? Maintenant, cette vérité était manifestée aux saints, à qui Dieu voulait faire connaître non seulement le mystère, ou la gloire du mystère, mais les richesses de la gloire de ce mystère. L'apôtre, écrivant à ceux qui étaient appelés d'entre les gentils, insiste spécialement sur le fait que le mystère est donné à connaître parmi les gentils, puis met l'accent sur le côté de la vérité, si nécessaire chez ces croyants gentils, selon lequel le mystère implique la grande vérité, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est vrai que le mystère implique aussi la grande vérité que les saints sont représentés en Christ, la tête, comparé Éphésiens 3, versets 6 et 11. Mais la vérité que Christ habite dans le cœur des saints et que son caractère doit être vu en eux, était la vérité dont les saints de Colosse avaient le plus besoin pour faire face aux dangers qu'ils couraient. Cette grande vérité est l'espérance de la gloire où Christ sera parfaitement manifesté dans les siens, comme nous lisons. Il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Il est important de garder clairement devant nos âmes les deux grands aspects du mystère, tels que présentés dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Premièrement, le propos de Dieu est qu'il y ait dans le ciel, par l'Église, une compagnie de saints qui partage l'exaltation de Christ, la tête, et le fait qu'il soit agréable. Ceci est développé dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 6 et chapitre 3. Deuxièmement, c'est le propos de Dieu que le caractère et la beauté morale de Christ, la tête, soient manifestés dans l'Église, son corps maintenant sur la terre, ainsi que dans la gloire à venir. Ceci est la grande vérité développée dans l'épître aux Colossiens. Versets 28 et 29. Citation de l'Écriture. Lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. À quoi aussi je travaille, combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Fin de citation. En attendant, Paul prêchait Christ, exhortait et enseignait tout homme, avec pour but que chaque saint reflète Christ et soit ainsi parfait en Christ, une expression qui implique un chrétien adulte.